J'ai célébré il y a quelques jours les obsèques d'une femme remarquable, une femme épatante. Elle avait atteint l'âge de 98 ans et elle avait traversé toute sa vie un nombre considérable d'épreuves. Bien sûr, la guerre pour une femme de sa génération, mais auparavant, petite fille, fille unique, elle avait été abandonnée par son père. Elle avait grandi dans des conditions difficiles, dans la pauvreté. Elle s'était mariée très tard, justement parce qu'elle n'avait jamais osé ramener personne à la maison, là où elle vivait. Toutes sortes d'épreuves. Mais elle avait gardé, envers et contre tout, un optimisme radical. Toujours souriante, enjouée, joyeuse. Et sa filleule, qui avait été sa famille adoptive, m'avait dit, au moment de la préparation de la célébration, m'avait dit, sa seule demande pour ses obsèques, c'était qu'on chante « Nous irons tous au paradis ». Même moi. J'ai répondu, pas de problème, j'adore. Et de toute façon, j'aurais passé l'homélie à dire que c'est une hérésie. Ce que je n'ai pas évidemment fait, j'ai rappelé d'abord la différence entre l'optimisme et l'espérance. L'espérance, c'est le Christ. C'est en lui qu'est notre espérance. C'est ce que nous allons vivre pendant toute cette semaine, jusqu'au grand mystère de Pâques et de sa résurrection. Et puis, la concernant, j'ai essayé dans mon homélie de faire plutôt une relecture spirituelle de ce qu'elle avait vécu. Mais à la fin, à la sortie du corps, nous avons effectivement chanté « Nous irons tous au paradis, même moi ». S'il y a un jour où tout le monde peut comprendre que c'est une hérésie, c'est aujourd'hui. Quand on entend le récit de la Passion, quand on voit ce que Jésus a subi, on ne peut pas... Enfin, qui trouverait possible, normal, juste, que ces bourreaux aillent au paradis? Bien sûr, nous espérons que, parmi tous ceux qui étaient là, le plus grand nombre possible, le plus grand nombre de ceux qui l'auront insulté, outragé, qui auront participé à ce supplice, se seront repentis pendant leur vie. Et même qu'au plus tard, au jour de leur mort, lorsqu'ils ont vu, ils ont rencontré ce que nous vivrons tous, le Christ glorieux ressuscité, ils se seront jetés à ses pieds en demandant pardon. Mais nous l'espérons du plus grand nombre, mais tous. Qui peut seulement le croire? Le salut pour tous, le salut universel, le salut automatique. C'est un nom, c'est une hérésie qui a un nom, ça s'appelle apokatastase, littéralement rétablissement. Restauration finale de l'univers entier, de toutes les choses, de toutes les créatures, dans leur beauté d'origine, telle que Dieu les a créées. Mais de tous, c'est-à-dire des hommes comme des démons, des méchants comme des démons, qui deviendraient, c'est quoi, pas un coup de baguette magique, des saints et des anges, tous au paradis. L'Église l'a solennellement rejeté. C'était au VIe siècle, en 553, au deuxième concile œcuménique de Constantinople. Elle a déclaré, si quelqu'un dit que tous les hommes, le diable, les démons, toutes les puissances du mal, seront pareillement ensemble, tous unis à Dieu, de la même manière que le Christ vivant, non, qu'il soit anathème. Non, surtout ne pensez pas cela. Et pourtant, encore aujourd'hui, et tout au long de l'histoire, qu'est-ce que c'est? De la naïveté? Beaucoup y ont cru, mais des grands noms, même de l'histoire de l'Église, un des grands commentateurs de l'Écriture, Origène, a cru à cela, au salut de tous, des bons comme des méchants, qui deviendraient tous, on ne sait pas comment, des saints. Et tous ceux qui ont cru avaient quand même raison sur un point. La raison de notre présence ici. À savoir qu'il faudra être saint pour entrer au paradis. Pour entrer dans la sainteté divine. C'est le chemin de notre vie. C'est pour ça que nous vivons cette vie chrétienne. C'est un chemin de vérité et de vie qui nécessite, et nous le savons, notre engagement, notre participation. L'Écriture le dit de façon très forte, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Voilà le chemin de notre foi et pour lequel notre bonne volonté, c'est-à-dire la volonté du bien, est indispensable, mais pas suffisante. Nos forces ne suffisent pas, notre bonne volonté ne suffit pas. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de son aide, de son secours, ce que nous appelons sa grâce. Maintenant, il faut quand même se demander pourquoi est-ce que tous n'iront pas au paradis ? Pourquoi est-ce que tout le monde ne sera pas sauvé ? Alors que l'Écriture dit également que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est dans la deuxième lettre à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et pourquoi ne le seront-ils pas tous ? Évidemment pas par défaut de la bonté de Dieu. Mais c'est la nature même de l'amour. L'amour ne peut pas obliger, l'amour ne passe pas en force. Pour être sauvé, il faut reconnaître que Jésus est sauveur. Si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Voilà l'affirmation forte de saint Paul dans la lettre aux Romains. Et cela implique pour tous ceux qui l'auront rejeté, non seulement, pas seulement outragé, qui l'auront délaissé, à un moment donné de reconnaître ses torts, de demander pardon. Le mystère du mal, auquel nous sommes confrontés de la façon la plus forte en ce jour de la Passion, pendant toute cette semaine sainte, le mystère du mal n'est pas tant le mal dont nous sommes tous capables, à un degré ou à un autre, tous capables de faire. C'est pas ça le mystère du mal. C'est plutôt la mauvaise foi, le mensonge, la malhonnêteté avec laquelle on se dédouane, on renie. Non, c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est l'autre. Le mystère le plus terrifiant de l'existence, c'est pas tant le mal dont nous sommes, encore une fois, tous capables, c'est le mal que nous refusons de reconnaître et de demander pardon. Qui es-tu, Seigneur ? C'est ce que dit Saul sur le chemin de Damas. Par trois fois, le livre des Actes des Apôtres raconte ce dialogue extrêmement fort. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Combien de temps lui a-t-il fallu ? Plusieurs jours, déjà simplement pour retrouver la vue. Mais combien de temps lui a-t-il fallu à Saul pour devenir saint Paul ? Voilà pourquoi nous irons nous confesser cette semaine. Et c'est ce qui donne son nom à cette semaine sainte. Parce que tous les saints ont pu se tromper, ont faire des erreurs, mais tous les saints ont demandé pardon. Et c'est au Christ qu'il faut le demander. Ceux qui croiront au Christ seront sauvés.